Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Anne Jouffroy.
Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de votre fidélité à Canal Académie. Robert Kopp, correspondant des sciences morales et politiques, professeur à l'Université de Bâle et à l'Université de Paris 4 Sorbonne, a préfacé le chef-d'œuvre historique de Jacob Burckhardt. Ce chef-d'œuvre est un livre écrit au milieu du 19e, intitulé « La civilisation de la Renaissance en Italie ». La nouvelle édition, celle qui est préfacée par Robert Kopp, est éditée chez Bartilla. Robert Kopp, bonjour.
Bonjour.
Je me réjouis de vous retrouver dans notre studio.
Plaisir partagé.
Jacob Burckhardt est né en 1818 à Bâle, mort en 1897 dans la même ville. Il est historien, historien de l'art, philosophe de l'histoire et de la culture et historiographe suisse. Et aux yeux de ses contemporains, Burckhardt fut l'un des esprits les plus cultivés de son temps. Surnommé le grand découvreur de la Renaissance, il a montré qu'une période doit être traitée dans son intégralité, en tenant compte non seulement de la peinture, de la sculpture, de l'architecture, mais aussi des institutions sociales et de la vie quotidienne. C'est en ça qu'il avait une modernité évidente. Robert Kopp, votre compatriote, Jacob Burckhardt, était un esprit universel et votre longue préface nous permet, nous les Français, si ce n'est de le découvrir, au moins de mieux le connaître. Car en France, ce livre fut méconnu et même défiguré par certains traducteurs, nous verrons ça. Mais avant d'évoquer l'intérêt, l'originalité de la civilisation de la Renaissance en Italie, Robert Kopp, quelles sont les origines familiales de Burckhardt? Quelle éducation a-t-il reçue? Et puis, est-ce que Bâle, cette capitale intellectuelle, a eu un rôle particulier dans sa formation, qui est toutefois une formation allemande?
Oui, tout à fait. Alors Burckhardt est né à Bâle. Comme vous l'avez dit, 1818, il fait donc, si on veut faire la comparaison avec ce qui se passe en France, il fait donc partie de la génération de Baudelaire, de Flaubert ou de Dostoïevski, c'est-à-dire des gens nés aux alentours de 1820. La deuxième génération romantique, ou la troisième selon le décompte, et il a parcouru tout le siècle. Il a donc 20 années de moins que Balzac, que Victor Hugo, que Michelet. Et il appartient à une vieille famille de théologiens protestants. Il a reçu sa formation à Berlin essentiellement, mais il a été un des grands amoureux de l'Italie. Sa patrie d'élection était l'Italie. Sa formation en Allemagne, ses origines baloises et son amour en Italie.
Oui, parce que quand il était jeune, il parlait de son patriotisme allemand. Mais non, c'était l'Italie qu'il faisait rêver. Mais de quelle Italie était-il question ?
C'était l'Italie, d'abord, à partir de sa 25e année, chaque fois qu'il pouvait, il a séjourné en Italie un mois, trois mois, une année, et il a parcouru l'Italie du nord au sud, généralement en calèche ou à dos de cheval, voire à pied. Il voulait voyager lentement, il était toujours celui qui prenait des notes et surtout qui prenait des dessins. Il était, vous l'avez dit, historien d'art, il ne voulait pas distinguer les deux, historien de la culture, car pour lui la culture était un ensemble, c'est sa grande nouveauté et c'est aussi la difficulté qu'il avait à se faire connaître. Pour lui, la culture était un ensemble et il a été un des grands inventeurs de cette histoire culturelle.
Oui, justement, parce que dans votre préface, vous avez commencé en disant que, en fait, Jacob Burckhardt a fait son essai en réponse à la Renaissance de Michelet. Ils avaient 20 ans d'écart, vous venez
oui,
de le
tout
dire.
À fait.
Et vous commencez votre préface en citant Lucien Febvre, comment Jules Michelet inventa la Renaissance. Mais en fait, Michelet n'a pas inventé la Renaissance et il l'a raconté, mais ce n'était pas lui l'inventeur ni du mot, ni de la genèse de l'éclosion de la Renaissance.
Non, pas du tout. c'est que le livre de Michelet a paru en 55, le livre de Burckhardt 5 ans après. Burckhardt connaissait bien entendu le livre de Michelet. Il avait séjourné, étant jeune, plus d'une fois à Paris, qu'il n'aimait que moyennement. Il aimait le Louvre, il aimait la Bibliothèque nationale, mais il n'aimait pas tellement la ville de Paris. Et Michelet a été, au milieu du siècle, le grand historien, non seulement de la Révolution française, bien entendu, mais aussi de la Renaissance. Sauf que la conception de Michelet n'est pas du tout celle de Burckhardt. Michelet raconte. Michelet raconte l'histoire du peuple français depuis la nuit des temps vers...
Il voit une évolution.
Il voit une évolution, cette espèce de longue marche vers la lumière. Et la Renaissance est une étape importantissime dans ce parcours. Mais pour Michelet, la Renaissance, c'est le XVIe siècle, parce qu'il s'intéresse à ce qui se passe au nord des Alpes, évidemment. Et pour Burckhardt, la Renaissance, c'est le Quattrocento, parce qu'il s'intéresse à ce qui se passe un siècle plus tôt au sud des Alpes.
Oui, et alors Burckhardt, lui, estimait que l'histoire, ce n'est pas une évolution, c'est simplement la vie des hommes, avec les structures, l'État, la culture, la religion, à une époque précise, mais qu'il n'y a pas à espérer une évolution.
Non, il faut resituer, et Michelet et Burckhardt un peu dans le 19e siècle, qui a été le siècle du progrès. Le siècle aussi de la religion, du progrès. Il ne faut pas oublier, c'est le siècle de l'industrialisation, c'est le siècle des chemins de fer, c'est le siècle en France des expositions universelles qui sont comme autant de grandes messes célébrées à la gloire du progrès, progrès matériel, progrès scientifique, progrès technique. Or, Michelet croyait au progrès comme Victor Hugo, par exemple. Burckhardt, non. Burckhardt était plutôt du côté de Baudelaire, de Flaubert, qui ne croyait pas au progrès, qui pensait que l'homme ne changerait pas, que on avait beau changer les conditions matérielles de la vie des hommes, mais que fondamentalement, l'homme ne changeait pas. Il était, pour employer un terme d'Antoine Compagnon, dans le camp des anti-modernes, en quelque sorte.
Il était un peu pessimiste.
Il était très pessimiste. Il détestait son époque, il détestait l'affairisme de son époque, il détestait les chemins de fer qui ont aussi été construits en Italie, pas seulement en France, en Allemagne, en Suisse, mais aussi en Italie. Et il dit, mais comment est-ce qu'on pourra encore voyager en Italie maintenant qu'il y a les chemins de fer qui raccourcissent les distances? On ne prendra plus le temps de s'arrêter, on n'aura plus le loisir de contempler les monuments, de s'entretenir avec les gens. Et il y a dans ses lettres à sa sœur des remarques tout à fait amusantes sur l'Italie qu'il aime. Il dit « Pourquoi est-ce que j'aime tellement l'Italie ? C'est parce que en Italie, la mendicité est plus répandue que l'industrie. »
C'est-à-dire qu'il aimait être en contact direct avec le pays qu'il parcourait.
Oui, il aimait être en contact direct, mais il aimait cette Italie qui résistait à la modernité. Or, cette Italie qui résistait à la modernité, qui était un peu à l'écart des grands courants de l'histoire au XIXe siècle, s'est rattrapée à travers le Risorgimento, c'est-à-dire Garibaldi a fait l'unité italienne.
Ça devait pas lui plaire, ça.
Pas du tout, pas du tout. Ça s'est passé quasiment sous ses yeux, mais il avait horreur de cela. Il avait horreur de l'Allemagne de Bismarck. Il avait horreur du jacobinisme. Il pensait que les États centralisés étaient des États qui étouffaient la vie locale, qui étouffaient la vie régionale, qui était une vie culturelle, qui était une vie intellectuelle aussi.
Oui, c'est pour ça que finalement, l'état d'esprit italien du Quattrocento, dans ces villes italiennes, pouvait donner le meilleur de lui-même, tout en gardant la culture de l'Antiquité ou en la retrouvant. Alors que dans les pays un peu plus centralisés, il y avait une uniformité.
Oui. Absolument. Regardez en France, la vie intellectuelle du XVIIIe siècle est extrêmement, extrêmement féconde. Il y a des académies à Bordeaux, à Toulouse, à Dijon. Rousseau, son fameux premier discours, c'est une réponse à une question posée par l'Académie de Dijon. La Révolution française, en grande partie, a tué la vie des régions. Et le mot « province » est devenu une insulte jusqu'au XXe siècle. Pourquoi est-ce que Malraux a fait les maisons de la jeunesse et de la culture ? Parce que, dit-il dans un de ses discours, il voulait réinsuffler une vie culturelle à ces provinces, et il dit « et je voudrais que ce mot hideux de province vienne à disparaître ». Bien au contraire, Burckhardt bat loi pour l'autonomie des cantons, car la Suisse aussi est devenue un État
C'était
fédéral.
C'était en 1848.
Mais évidemment, est devenue un État fédéral à la même époque. Et Burckhardt avait sous les yeux la lutte entre les conservateurs dont il était et les radicaux, c'est-à-dire les conservateurs qui voulaient maintenir l'autonomie des cantons, la plus grande autonomie des cantons, et les radicaux qui voulaient une sorte de pouvoir central. Et Burckhardt était du côté des conservateurs parce qu'il pensait que l'autonomie cantonale était plus favorable au développement de chacun. Et c'est la raison pour laquelle cette Italie du Quattrocento le fascine, parce qu'elle est morcelée. Il y a une renaissance à Florence, il y a une renaissance à Sienne, il y a une renaissance à Parme, il y a une renaissance à Venise, il y a une renaissance à Bologne, il y a une renaissance à Naples, et ce sont autant de mouvements en partie autonomes, mais les écrivains voyagent, les philosophes se connaissent, les scientifiques correspondent, les artistes s'échangent. Il y a aussi ce tissu, bien entendu. Mais chacune de ces villes, chacun de ces duchés, chacune de ces petites unités politiques promeut sa propre culture. Regardez les Médicis à Florence.
Bien sûr.
Ils sont à eux seuls une renaissance sur plusieurs générations.
Alors, il y a quand même un petit point que j'aimerais bien que l'on évoque là. Parce que il critique aussi les religions monothéistes en disant qu'elles sont, elles aussi, elles ont une forme d'autoritarisme qui sert la politique. Mais alors, en Italie, pourtant, peut-être que les unités politiques sont très morcelées, bien sûr, mais la religion chrétienne catholique est très prégnante, pourtant.
Oui, la religion est très prégnante, mais en même temps, la Renaissance est faite par les Médicis, les Sforza et d'autres, et puis par les papes. Par les papes, mais les papes sont à Rome. Leur influence, en partie, se limite à Rome. Alors Burckhardt, comme protestant, est évidemment un peu méfiant vis-à-vis de l'hiérarchie
ecclésiastique,
absolument. Les protestants lisent l'évangile dans le texte. Ils ont, si je puis dire, une sorte d'accès direct à Dieu sans avoir besoin d'intermédiaires. Or, les hommes de la Renaissance, quand ils étaient chrétiens, ce qui n'était peut-être, ou croyants, ce qui n'était peut-être plus tout à fait le cas de Burckhardt, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont édité les textes des évangiles. Le grand dessein d'Érasme était d'être l'éditeur du Nouveau Testament, c'est-à-dire revenir à la pureté du texte, débarrasser des scories, des commentateurs qui se sont accumulés ou des commentaires qui se sont accumulés pendant des siècles de scolastique. Donc, Burckhardt a beaucoup d'admiration pour ces humanistes, et en Italie et au nord des Alpes, qui reviennent à la pureté des sources antiques dans tous les sens du terme, c'est-à-dire l'héritage chrétien d'un côté, et puis l'héritage cicéronien, si l'on veut, de l'autre. Car le latin d'église est devenu un latin corrompu. Que veulent les humanistes? Qu'on revienne au latin de Cicéron, à un latin pur, qu'on revienne au texte grec. Et l'imprimerie aidant a évidemment permis de mettre à la disposition de tous ceux qui savaient lire et écrire cet héritage antique.
Come si turbato.
Tout à l'heure, vous avez parlé des papes. Je crois qu'il faut qu'on évoque la personnalité de Pie II.
Ah, l'homme préféré de Burckhardt. Il avait deux grandes références. Machiavel, d'un côté, qui pour lui était l'analyste le plus lucide.
Parce qu'il était très sincère.
Oui, il dit effroyable dans sa sincérité. Effroyable parce que la froideur avec laquelle il analyse les mécanismes du pouvoir lui faisait presque peur. Mais c'était son guide pour tout ce qui est comment est-ce qu'on arrive au pouvoir, comment est-ce qu'on s'y maintient, comment fonctionnent les rouages de l'État. Et de l'autre côté, c'était Pie II qui avait sa prédilection. Or, Pie II est un des très grands humanistes. Il était, Burckhardt le connaissait, si je puis dire, pour l'avoir rencontré à Bâle. Car la bonne ville de Bâle, au milieu du XVe siècle,
a reçu un concile futur Pie II était secrétaire.
Oui, un concile importantissime. Parce que c'est un concile à rallonge. Le concile de Bâle, Florence, Ferrare, qui a duré une trentaine d'années, comme les conférences internationales aujourd'hui, ça se déplace et puis une antenne est restée à Bâle. Or, c'était un concile où on a essayé pour la dernière fois de faire l'unité avec l'Église d'Orient. Et ça s'est achoppé à ce fameux filioque qui a fait couler beaucoup d'encre. Or, le secrétaire général du concile était Ennea Silvio Piccolomini. Il n'était pas pape encore à cette époque-là. Et c'était un très grand connaisseur de l'Antiquité gréco-latine. Et il a œuvré au sein du concile pour l'élection d'un antipape. Et il a même publié à Bâle toute une série de libelles pour dire la véritable autorité de l'Église, c'est le concile. Il était presque une sorte de démocrate dans le sein de l'Église. Ceci dit, devenu pape sous le nom de Pie II, il s'est empressé de publier également un certain nombre de libelles pour dire les conciles, ça ne compte pas du tout. La seule autorité, c'est celle du pape. Comme quoi, on a parfois les opinions qui correspondent à la situation que l'on occupe. Ceci dit, Pie II a laissé de Bâle une des plus merveilleuses descriptions qui soit à travers toute une série de lettres de la ville, de ses collections, de choses architecturales, de ses œuvres d'art, de son orfèvrerie, etc., etc. Bâle a été un carrefour depuis toujours. Et dans ses écrits, Pie II a laissé toute une série de descriptions de la campagne romaine. C'est ce que Burckhardt adorait, son rapport avec la nature. Car Burckhardt dit, entre autres, une des découvertes de la Renaissance. Bien entendu, c'est l'homme, c'est l'individu qu'on met en avant. Mais c'est le rapport de l'individu avec la nature. La nature commence à exister comme sujet à part entière dans la poésie et dans la peinture. On n'a plus besoin de l'homme en quelque sorte. La nature devient non pas un décor ou n'est plus seulement un décor, devient sujet à part entière.
Un personnage.
Absolument.
Et ça, c'est aussi dans l'esprit italien des cités dont vous avez parlé.
Absolument, absolument. Et ça se voit dans la peinture de l'époque, ça se voit dans la littérature de l'époque, dans la poésie de l'époque. Il y a une poésie de la nature.
Carmina Burana.
Exactement. Il y a une poésie de la nature qui est typiquement, qui est propre à la Renaissance italienne.
Se non la vicina te voglia stare.
Burkhard est un personnage, j'ai dit tout à l'heure que son œuvre n'était pas très connue en France parce que il a eu deux événements, deux mauvais traducteurs qui l'ont trahi, et puis lui n'était pas un personnage qui tenait spécialement à la postérité en général de ses œuvres.
Oui, Burkhard, pour toute une série de raisons, n'a pas trouvé un public français important. D'abord, il était un peu insouciant à l'égard de son œuvre. Il n'a publié que trois livres, trois grands livres. Je ne parle pas des articles et des brochures.
Le Cicérone,
ensuite Constantin, et puis La civilisation de la Renaissance.
Et les considérations sur l'histoire universelle, c'est encore
postule.
Autre chose.
C'est encore c'est autre chose, c'est un cours qui a été publié d'après des notes par un de ses neveux, bien après la mort de Burkhard. Or, de ces trois livres, seuls deux, le Cicérone et la Renaissance, ont été traduits. Or, les Français, pour voyager en Italie, n'avaient pas besoin, en quelque sorte, de Burkhard. Ils avaient déjà Stendhal, ils avaient Théophile Gautier, ils avaient beaucoup d'autres guides possibles.
Oui, le président de Brosse.
Exactement. Donc, si on veut faire une anthologie des voyageurs français en Italie, elle est extrêmement riche, on n'a pas besoin de Burkhard, il y a d'autres sources. Ensuite, Burkhard lui-même a considéré dans la deuxième partie de sa vie, quand après des pérégrinations, l'Allemagne, l'Italie, les très longs séjours, et puis un professorat à Zurich, il est rentré à Bâle dans les années 60, à peu près au moment où il a publié La civilisation de la Renaissance, il a estimé que le rôle de l'historien dans la cité, c'était de parler à ses concitoyens, de transmettre une culture, de les faire réfléchir sur différents épisodes du passé. Et il a fait des centaines et des centaines de conférences publiques. Et dans les archives de la bibliothèque universitaire de Bâle, on conserve des milliers de fiches et des milliers de pages de notes. C'est cette espèce d'œuvre parlée de Burkhard qui, à ses yeux, était aussi importante que son œuvre publiée.
Il faut dire que je crois qu'il aimait beaucoup le professorat, il aimait beaucoup communiquer.
Il aimait beaucoup son métier, il aimait beaucoup le public, moins les étudiants, qui l'intéressaient certes, que ce qu'on appelait le public cultivé, car ses conférences étaient publiques et étaient suivies par 100, 150, 200 personnes, une, deux, trois fois par semaine. Ce n'était pas nécessairement à l'université, c'était dans des salles de conférences en ville. Donc, un public, entre guillemets, mondain. Les professions libérales, les médecins, les avocats, les hommes d'affaires, les banquiers, etc., etc., les femmes de la bonne société, et ainsi de suite. Pour lui, c'était une culture vivante. Comme dans sa jeunesse, il a participé à une culture de salon qui était de faire de la musique ou de faire du théâtre. C'est-à-dire cette espèce de culture urbaine et qui a existé dans beaucoup de villes de province à partir du XVIIe siècle.
Alors, quand est-ce que son œuvre a commencé à être fidèlement traduite, en tout cas en français ?
Alors, la civilisation de la Renaissance a connu un succès d'estime. En France, Taine le lisait évidemment dans l'original. Il y a eu plusieurs comptes rendus, plusieurs articles importants. Et une deuxième édition, quelques années plus tard, a été très légèrement corrigée par Burkhard. Et après, pour la troisième édition, il a abandonné son livre à un jeune collègue, le fils de celui avec qui il avait travaillé dans le temps, Kugler, le grand historien d'art, un des fondateurs de l'histoire de l'art en Allemagne. Et ce jeune Kugler, en brave positiviste, a ajouté des notes, des appendices, pensant que la recherche avait fait des progrès, qu'on avait découvert de nouveaux sites, qu'on avait édité de nouveaux textes, que Burkhard n'avait pas encore mentionné. Et d'édition en édition, il a augmenté ce livre qui, à l'époque de la Première Guerre à peu près, avait carrément doublé de volume. Et ce n'est qu'après la Première Guerre qu'en Allemagne, quelqu'un est revenu à la première édition en disant « Ces débordements positivistes, ces scories, il faut les enlever. » Burkhard a fait un essai, comme Tocqueville a fait un essai sur la démocratie en Amérique.
Laissons-le dans sa pureté.
Voilà, on va pas ajouter en note ce que d'autres ont dit de tel ou tel problème rencontré dans l'histoire des États-Unis. Tocqueville a fait un essai sur l'Ancien Régime et la Révolution. On ne va pas rajouter, lors des rééditions suivantes, en note ce que d'autres ont pu dire de la Révolution française et de ses rapports avec l'Ancien Régime. C'est un essai qui porte une date et il est terminé, il n'y a plus à y toucher. Donc, ce n'est qu'après la Première Guerre qu'en Allemagne, on est revenu au texte original. Le malheur, c'est que les premières traductions françaises se sont fondées sur ces éditions augmentées. Il est évident que le livre a un peu déconcerté sous cette forme-là. Et ce n'est qu'après la Deuxième Guerre qu'un des grands élèves de Chastel, l'immense historien d'art,
André Chastel,
qui a eu la plus grande estime pour l'œuvre de Burckhardt et qui a chargé Robert Klein de revoir cette traduction pour qu'elle puisse enfin faire connaître l'œuvre de Burckhardt dans sa pureté.
Cette édition que vous avez préfacée permet tout à fait de voir le joyau que ça représentait. Je vois que vous avez un immense respect, une admiration pour Burckhardt.
Oui, c'est un livre que j'aime, comme j'aime La démocratie en Amérique de Tocqueville, comme j'aime d'autres essais du XIXe siècle qui font partie de cette grande historiographie du XIXe qui ne sont pas soumis aux aléas de quelque progrès que ce soit que la science, bien entendu, est amenée à faire. On va pas non plus corriger Michelet à propos de la Révolution française. Il a fait une histoire de la Révolution française. Bien entendu, on a fait des progrès. On connaît mieux les archives qu'il ne les connaissait. Ce n'est pas pour cela que son histoire a vieilli. Sauf que Michelet raconte ce que Pierre Nora a appelé le roman national. Michelet est devenu un des maîtres de l'enseignement de l'histoire en France. Et c'est ainsi que son œuvre s'est répandue, parce que, quelque part, les Français restent un peu jacobins, même s'il y a des partisans de la décentralisation. Mais le jacobinisme, jusqu'aujourd'hui, garde des adeptes, et même, chez les ennemis du jacobinisme, il reste des traces, en quelque sorte. J'entends l'État fort est quelque chose qui est tellement ancré en France,
dans les mentalités françaises,
absolument, que ça fait partie, aujourd'hui, on dirait, de l'ADN français. Or, Jacob Burckhardt va absolument contre ce courant. C'est un anti. Jacobin. C'est un anti-jacobin qui pense que seuls peuvent produire une grande civilisation ou deux grandes civilisations les petites unités autonomes et non pas les grands États centralisés. Alors, certes, l'Italie de la Renaissance lui donne raison, car s'il a choisi cet exemple, c'est que il a voulu faire réfléchir sur ce qui se passait sous ses yeux au XIXe siècle. C'est-à-dire, il a voulu faire réfléchir à l'unification de l'Allemagne, au Risorgimento italien, aux conséquences de la Révolution française. Car Burckhardt, malgré tout, était un historien engagé. Il dit aussi dans son livre, il est évident que l'historien est toujours subjectif. Mais il ajoute, il est évident que le lecteur reste aussi subjectif, fait une lecture subjective d'un livre qu'il prend en main. Et il va jusqu'à dire, c'est bien ainsi, parce que, au fond, je ne vais pas transmettre des vérités, je vais plutôt transmettre des exemples qui font réfléchir, qui font réfléchir à la situation dans laquelle on se trouve. Et c'est en cela que cet essai ne peut pas se démoder, parce que les problèmes desquels parle Burckhardt sont encore les nôtres. Le problème du centralisme ou de la décentralisation, il suffit d'ouvrir un journal aujourd'hui, une page culturelle, c'est encore un problème qui est discuté. En France, regardez, il y a des scènes qui sont qualifiées scènes nationales et d'autres qui ne le sont pas. Et il y a une grande rivalité entre les deux, bien entendu. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Et qu'est-ce que ça signifie d'avoir une culture municipale? En France, ce n'est presque pas concevable.
ce qu'il y a d'aussi étonnant, c'est qu'en fait, il avait un côté conservateur, on l'a compris, mais enfin, il avait bien vu les dangers d'un État, je vais jusqu'au bout en disant totalitaire, parce que c'est pas le cas de la France, mais c'est un danger possible.
Disons et, tentaculaire.
Mais il avait un peu annoncé ce qui allait se passer au XXe siècle.
Il était très pessimiste. Vous l'avez dit, il était pessimiste parce que un de ses maîtres à penser, encore que son indépendance d'esprit devrait nous empêcher d'utiliser ce mot, était Schopenhauer, qui était aussi un des maîtres à penser de Nietzsche. Et Burckhardt et Nietzsche ont été collègues à l'université de Bâle. Nietzsche, de 20 ans, son cadet, suivait régulièrement
les cours de
Burckhardt, absolument. Et les considérations de Nietzsche sur l'histoire proviennent en partie de ce fameux cours que Burckhardt intitulait modestement « Introduction aux études historiques » et qu'on a publié après sa mort sous le titre « Considérations sur l'histoire universelle ».
Et il faut dire que Nietzsche ne s'est jamais caché d'avoir été au contact du personnage et de l'œuvre de Burckhardt.
Au contraire.
Et souvent, il le dit officiellement.
Il le cite.
Et les historiens littéraires de Nietzsche ne comprennent pas qu'il y a ce personnage-là.
Non.
L'éminence grise.
Non, c'est qu'ils ont cette lecture commune qui est Schopenhauer, mais Nietzsche fait peut-être de Burckhardt une lecture un peu trop schopenhauerienne. Je pense que Nietzsche est resté beaucoup plus schopenhauerien que ne l'était Burckhardt. Mais les deux étaient relativement pessimistes. Et Burckhardt était pessimiste pour ce qui était de l'évolution de l'histoire, c'est-à-dire de ce fameux progrès vers des États de plus en plus centralisés et de plus en plus forts et en partie de plus en plus militarisés. Et il a dit plus d'une fois, le XXe siècle, il est mort 3 ans avant le tournant du siècle, le XXe siècle risque d'être un siècle de catastrophe, de grande catastrophe, car si ces États vont s'entrechoquer, il ne peut qu'y avoir du malheur. Et il pensait que la civilisation européenne courait à sa perte.
Une des particularités de Burckhardt en ce qui concerne la religion ou les religions, c'était son choix, on l'a peut-être un petit peu dit tout à l'heure, il préférait les religions polythéistes, beaucoup moins normatives que les religions monothéistes. Et la religion chrétienne, le judaïsme et l'islam étaient pour lui trop prégnants.
Oui, c'est que Burckhardt voulait se situer du côté de la tolérance. Et il n'était pas loin de penser que plus il y a de Dieu, mieux ça vaut, parce que chacun aura son Dieu préféré. Et qu'il était plus facile à ce moment-là d'être tolérant vis-à-vis de la religion de l'autre. Le christianisme, le judaïsme, l'islam, les religions monothéistes lui paraissaient trop invasives dans la vie de chacun, trop invasives dans la vie de l'État, trop directives et, pourrait-on dire, il n'a pas du tout employé ce mot, trop totalitaire, je dirais trop tentaculaire peut-être. Et c'est la raison pour laquelle il s'est mis un peu à distance. Il a mis en garde contre ce qu'il a appelé la dictature des religions.
En fait, c'était un historien, mais c'était un philosophe de l'histoire, c'était un réel penseur. Il était dans son monde un petit peu à l'abri du bruit du monde, mais c'était un réel penseur. Et c'est pour ça qu'il a eu des épigones, des héritiers.
Oui, c'est quelqu'un qui a réfléchi sur le cours de l'histoire, qui a essayé de comprendre les mécanismes de l'histoire, non pas dans sa progression, parce qu'encore une fois, pour lui, la roue tournait et retournait et retournait encore, mais les éléments étaient toujours un peu les mêmes, c'est-à-dire il y avait toujours 3 composantes, c'est-à-dire l'État d'un côté, et puis les hommes de l'autre, la religion enfin, et puis les éléments culturels. Donc, comment est-ce que les hommes se sont organisés pour vivre ensemble? C'était cela, au fond, son interrogation. Comment est-ce qu'une société humaine se construit? D'où l'intérêt pour Machiavel. Comment est-ce que le mécanisme se monte? Le premier chapitre de la civilisation de la Renaissance est consacré à l'État. Et il dit l'État comme œuvre d'art. Or, le sens de œuvre d'art pour Burckhardt, c'est quelque chose qui a été fait, qui a été fabriqué. cet état qui est une œuvre faite par l'homme qui a été construit intentionnellement, nous parlons de la Renaissance, du Quattrocento italien, est une construction artificielle, une construction intellectuelle. Et il l'oppose, au fond, à une conception de l'État qui serait organique. L'État qui serait l'émanation d'une volonté divine, celle des monarchies de droit divin. Aucun des potentats italiens ne se disait de droit divin. Il se disait de droit militaire, ou de droit dynastique, ou de droit du plus fort. Mais il n'y avait pas de légitimation fondée sur une transcendance. Le pouvoir était dans l'immanence.
Oui, c'est en ça qu'en fait, il était aussi pétri de la culture antique.
Absolument.
Merci beaucoup, Robert Kopp, et j'espère à une autre fois.
C'est moi qui vous remercie, et à bientôt.
Au revoir, monsieur.